Pour ce début d'année, je cherche un texte qui permette de partir du bon pied. Alors c'est vrai que pour cette première semaine de janvier, nous sommes un peu gâtés, effectivement, par des sources d'inquiétude et de misère assez vraiment remarquables, malheureusement. Et je pense que vraiment nous avons besoin de retrouver comme ça les fondamentaux qui nous permettent de partir avec un nouvel élan, un bel élan. Alors je vous propose, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, l'hymne au Christ, un texte parmi les plus célèbres de l'apôtre Paul, avec peut-être son hymne à l'amour. Alors je vous ai proposé le début de la lettre aux Philippiens pour Noël. Vous trouverez, si vous voulez, le texte de la prédication sur la petite table à la sortie. Et donc là, c'est le début du chapitre 2, c'est en quelque sorte la suite que je vous propose. S'il y a donc, nous dit Paul, quelque réconfort en Christ, quelque encouragement dans l'amour, quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque tendresse et compassion, alors, comblez ma joie en vous comportant de la même façon, ayant le même amour et une âme unifiée, cherchant l'unité, ne faisant rien par rivalité ni gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres mutuellement. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui qui, se trouvant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais s'il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux humains, et, reconnu à son aspect comme un humain, il s'est abaissé, devenant obéissant, littéralement à l'écoute, jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a surélevé et lui a donné par grâce le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse le Seigneur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul nous invite ainsi à un nouvel élan. Et pour que nous en ayons la force, il nous donne en premier lieu ce qui peut nous donner à la fois le moral, l'énergie, la force pour avancer. C'est ce fameux paragraphe où il dit « S'il y a quelque réconfort, s'il y a quelque encouragement, s'il y a quelque communion, s'il y a quelque tendresse et compassion », il nous donne là un catalogue de forces extrêmement puissantes dans nos vies pour les ressusciter, pour nous donner force, élan nouveau. Alors, s'il y a quelque, montre qu'il suffirait d'à peine quelques miettes, quelques millimètres, quelques gouttes de ces réalités dans notre existence pour nous permettre d'avancer. Même si c'était donc quelques miettes de Christ dans notre vie, à peine un tout petit peu d'amour, de tendresse ou de compassion, eh bien c'est déjà formidable. Quant à l'Esprit de Dieu, il fait partie de notre nature d'humain. Donc, nous en avons au moins un petit peu de ce souffle de Dieu. Et effectivement, dans ce petit catalogue qui nous donne 5 choses, c'est parmi les plus grandes forces qui peuvent animer l'humain, qui peuvent nous rendre plus vivants, qui peuvent nous rendre plus forts que les détresses qui pourraient nous abattre. Et il en existe effectivement de terribles dans l'existence, dans ce monde. Christ comme réconfort. Christ comme soin quand nous sommes blessés, quand nous sommes meurtris, découragés, culpabilisés, effrayés, aigris, en colère. Et puis, il y a l'amour, bien sûr. Et puis, il y a l'esprit, c'est-à-dire cette dynamique de Dieu qui, depuis les origines, est capable de transformer le chaos brutal en un corps harmonieux et vivant. Et puis nous avons ces forces incroyables, miraculeuses, que sont la tendresse et la compassion. Celle de Dieu, bien sûr, inaliénable, toujours là. Mais aussi celle d'une personne qui a pu avoir un geste de tendresse et de compassion à notre égard. Et cela, ça nous relève vraiment. Donc ces cinq grandes forces sont capables de faire des miracles dans notre vie et dans notre monde. Et pourtant, elles sont presque impalpables, car effectivement, ce sont toutes des forces spirituelles. Elles sont l'avenir de notre monde. Elles sont votre bel avenir dans votre vie à vous, en ce monde que Dieu aime. C'est pourquoi, pour cette nouvelle année, je vous souhaite ces cinq bénédictions. Le Christ pour vous réconforter, l'amour qui vous donne tous les courages d'être, l'esprit qui harmonise et qui rassemble, et puis la tendresse et la compassion qui rendent la vie si belle. Alors, ce n'est pas encore tout, nous dit l'apôtre Paul. Il annonce que cette joie d'avoir ces cinq forces dans notre vie, elles peuvent être encore grandies, elles peuvent même être comblées. Ce serait, nous dit-il, que ces cinq forces nous inspirent, qu'elles nous inspirent une façon d'être, afin que nous soyons nous-mêmes comme de petites sources de ces forces autour de nous. Et effectivement, dans la mesure où nous avons goûté ne serait-ce qu'un tout petit peu à ces forces, ça nous inspirera une vocation. C'est tout naturel. Par exemple, quand nous avons entendu une bonne blague, est-ce que ça ne nous donne pas envie d'aller la raconter? Ou quand nous avons connu une joie, une vraie joie, ne désirons-nous pas être comblés de joie en témoignant, en bondissant de joie, en rendant louange à Dieu? Quand nous avons reçu quelque tendresse, est-ce que ça ne nous attendrit pas un petit peu plus encore? Ou quand nous avons senti de la compassion, est-ce que ça ne nous rend pas un peu plus compatissants envers ceux qui eux-mêmes ont de la peine? Eh bien oui. Quant à la foi en Christ, elle se révèle être une puissance de vie dans notre existence absolument incroyable. Et cela nous donne envie d'en faire profiter d'autres personnes qui nous sont chères, que nous voyons errer dans l'existence, tâtonner à la recherche de ce qui pourrait faire sens, de ce qui pourrait être une vie un peu plus intense. Alors il est vrai que cette manie des chrétiens de témoigner toujours de leur Jésus, ça peut énerver certaines personnes, d'autres religions, d'autres philosophies. Cela doit donc être fait avec délicatesse, c'est-à-dire avec amour pour la personne que l'on rencontre, mais pas comme un donneur de leçons en disant « moi, j'ai la vérité et vous, vous êtes bien nul de ne pas l'avoir ». Pas avec supériorité, mais comme un partage personnel. Le Christ a été pour moi une force de vie incroyable. Et c'est tout. Ensuite, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent, bien sûr. Alors, Paul aurait pu arrêter à ce point-là de son élan de vie qu'il nous propose, sur cette respiration de vie qu'il décrit, avec cette inspiration d'abord, avec ces cinq forces miraculeuses, comme l'oxygène que nous prenons dans nos poumons et qui vient porter l'oxygène jusqu'au bout du petit doigt de pied gauche et ailleurs aussi, peut-être même dans les cheveux qui poussent. Eh bien, que cette inspiration donne vie à notre existence tout entière, à notre corps, à notre pensée, à notre amour. Et donc cette inspiration et cette expiration dans notre humble recherche peut-être de faire si possible un peu de bien autour de nous aussi. Mais Paul continue après cette description de cette respiration, il nous donne en quelque sorte le mode d'emploi pour que nous puissions intensément vivre et cette inspiration et cette expiration en nous appelant à être frères ou sœurs de Jésus-Christ. Paul nous conseille « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus ». En fait, c'est le même état d'esprit, c'est phronéo qu'a donné le diaphragme, parce que les Grecs pensaient que dans le diaphragme qui nous permet de rire ou de pleurer, de souffler, eh bien, il y a là le siège de notre âme. Donc avoir ce même état d'esprit que Jésus-Christ avait dans son existence. Alors, c'est comme un mode d'emploi qui nous est proposé, c'est un mode d'être que nous apporte le Christ. Et c'est ce que décrit l'apôtre Paul dans ce fameux hymne au Christ. Le Christ, il nous initie d'abord à un juste rapport avec Dieu. Lui qui, nous dit Paul, se trouvant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Alors cette phrase un peu complexe, elle fait référence à la conception de l'humain annoncée par les trois premiers chapitres de la Genèse. L'humain est créé à l'image de Dieu, en forme de Dieu donc. Incroyable nouvelle qui nous est annoncée. Et puis dans la Genèse, aussitôt, l'humain, créé à l'image de Dieu, en profite pour essayer d'être l'égal de Dieu. C'est ce fameux récit avec Adam et Ève et le serpent qui parle. Alors c'est une tendance très humaine, évidemment, de toute époque. Mais il semble qu'elle soit plus que jamais d'actualité, avec l'augmentation exponentielle de la puissance de l'humain. Alors que nous soyons faits à l'image de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. C'est une capacité à avoir un point de vue personnel et pertinent en même temps sur le monde. Une capacité à aimer, une capacité à dialoguer, une capacité à créer du neuf qui vient du fond de nous-mêmes. Notre genèse comme créature à l'image de Dieu, elle est encore en cours, bien sûr. Nous n'en sommes qu'à l'enfance. Mais, dans la mesure où nous prenons déjà un petit peu notre force, notre puissance de vie, nous pouvons déjà être à l'image de Dieu. Le problème, c'est que dans la mesure où nous nous prenons un peu pour Dieu aussi, un peu pour Dieu sur les bords, d'une certaine façon, eh bien ça va bloquer notre capacité à grandir dans l'illusion que nous nous faisons d'être déjà assez bien pour et de ne pas avoir besoin d'évoluer. C'est ce dont témoigne l'immense saint Augustin. Il était un très fameux professeur de rhétorique. Alors à l'époque, la rhétorique, c'était la reine des disciplines. Celle qui faisait le conseiller des empereurs. Sa mère Monique essayait de l'intéresser au Christ et à la Bible, mais sans beaucoup de succès. Et saint Augustin explique pourquoi dans les Confessions. Voilà ce qu'il nous dit. « Je pris la résolution, à la suite de ce que disait sa mère, d'appliquer mon esprit à la Bible et de connaître ce qu'elle était. » Je le sais aujourd'hui, c'est une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des orgueilleux, ni à la simplicité des enfants. Elle a une entrée basse et des voûtes immenses comme une cathédrale. Partout, un voile de mystère. Je n'étais pas capable d'y entrer parce que pas capable de courber ma tête pour suivre ses pas. Elle me semblait indigne d'être mise en parallèle avec la majesté des textes de Cicéron. Mon orgueil répudiait sa simplicité et mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs. Et c'est pourtant cette Bible qui veut grandir avec les petits. Mais moi, je dédaignais d'être petit, car enflé de vaine gloire, je me croyais déjà grand. C'est ce que dit effectivement saint Augustin. Celui qui pense n'avoir rien à apprendre n'apprendra jamais rien. Ce à quoi nous sommes appelés au Christ, ce n'est pas à l'humilité au sens où nous devrions nous prendre pour des vers de terre. Au contraire, c'est sentir que nous sommes déjà une personne extraordinaire, pleine d'un potentiel incroyable, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, excusez du peu. Donc ce texte ne nous humilie pas, au contraire, mais simplement, il nous rappelle que nous avons une marge de progression, car nous ne sommes pas Dieu, et que c'est Dieu qui peut nous élever encore, qui peut nous élever au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc c'est le premier point que nous inspire le Christ. C'est en quelque sorte le mode d'emploi de 5 forces de vie fondamentales qu'il a présentées au début. Le second point que nous inspire le Christ, nous dit Paul, c'est un mode d'être qui va nous permettre d'être un tant soit peu utile en ce monde, source de salut comme l'est ô combien Jésus-Christ. C'est de prendre la condition de serviteur comme l'a fait Jésus-Christ. C'est être à l'écoute, nous dit Paul, à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, pas simplement de notre petit ego. Cela évite de faire comme Adam et Ève, vivant dans une sorte d'illusion, de vérités alternatives, comme on dit aujourd'hui, c'est à la mode, appelant mal le bien et appelant bien le mal, complètement à leur guise, hors de sens. Alors il nous appelle donc en Jésus-Christ à être serviteur et à être à l'écoute. C'est comme cela que l'on aime une autre personne, en étant serviteur et à l'écoute. C'est ce que Christ a enseigné à de multiples reprises, montrant que c'est ainsi qu'on est un maître et un seigneur. C'est comme cela qu'il termine par un geste incroyable, lavant les pieds de ses disciples, comme un témoignage spirituel de l'essentiel. C'est ce que nous avons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13. Oui, lui, Seigneur et Maître, se fait serviteur. C'est ce qu'il a vécu lui-même dans de 1000 petits gestes au cours de sa vie, jusque sur la croix, nous rappelle donc cet hymne au Christ. C'est ainsi que nous serons à l'image de Dieu, car c'est ce dont témoigne le Christ par ses paroles et par ses gestes. Dieu est à notre écoute. Et Dieu se fait notre serviteur pour nous porter, pour nous élever. C'est pourquoi, nous dit Paul, Dieu a donné au Christ le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel est ce nom ? Paul ne le dit pas ici. À mon avis, ce nom, c'est celui de serviteur, à l'image de Dieu. En effet, Jésus parle de ça dans un passage de l'Évangile. Il nous dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur ». Or, le plus grand des plus grands, c'est Dieu, bien entendu, qui se fait notre serviteur, serviteur de l'humanité en Christ. Et c'est pour ça que le Christ nous dit « Tu écouteras ». Tu écouteras et tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Amen.